Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Je vous retrouve pour un nouvel épisode où on va parler sextech. Alors, si vous avez été à l'écoute, vous avez vu, entendu que le premier épisode du mois de mars était sur la sextech, et donc le dernier épisode du mois de mars est aussi sur la sextech, et plus particulièrement sur la réalité virtuelle, les cybersexualités. Pour ce faire, je reçois à mon micro Kathleen Smooth, on va aborder ensemble les cybersexualités. Elle va nous parler un petit peu plus de son entreprise, de ce qu'est concrètement la réalité virtuelle, quelle peut être l'utilisation de la réalité virtuelle dans le monde de la sexologie, est-ce que la réalité virtuelle peut aider à traiter les problèmes sexuels, et si oui, de quelle manière ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ces cyberespaces ? Comment on peut explorer la sexualité différemment ? Soyez à l'écoute, parce que ça va être assez intéressant. L'épisode est peut-être un peu plus long que d'habitude, mais voilà, je voulais vraiment qu'on comprenne ce qu'est la réalité virtuelle, parce que c'est un monde encore assez flou pour la plupart d'entre nous. Donc là, c'est vraiment un premier épisode pour décortiquer tout ça. On pourra réinviter au micro Kathleen Smooth un peu plus tard pour aller encore un peu plus profondément, parce que cette première écoute, ça m'a ouvert plein d'autres portes et plein de questions, mais je pouvais pas tout aborder si on voulait condenser ça en une heure. Aussi, par rapport au son, j'ai l'impression que le son de Kathleen est vraiment faible comparé au mien, donc j'ai essayé d'ajuster ça au montage, mais excusez-moi si vous devez mettre le volume un peu plus fort que d'habitude pour pouvoir nous entendre. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la toute fin. Kathleen Smooth est psychologue, sexologue et CEO de Imbu, The Love Tech Company. Elle oscille entre consultation thérapeutique et recherche sur les cybersexualités et les arts numériques. Kathleen fait partie de cette nouvelle génération de pionnières qui décortiquent les mystères du cyberespace. Son travail mélange l'art numérique, la réalité virtuelle et l'amour au service des couples. Kathleen, bienvenue sur le podcast.
Merci Camille.
Ça fait plaisir de s'accorder ce temps ensemble depuis notre dernière entrevue sur Lyon et de rattraper les news depuis. Donc, merci d'avoir accepté. Alors déjà, tout d'abord, c'est quoi les cybersexualités, la réalité virtuelle ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ?
Alors, la cybersexualité, ça va être super simple. C'est la sexualité qui est liée aux technologies. Donc ça peut être, par exemple, quand tu fais des sextos, c'est déjà de la cybersexualité en soi. Okay. Ça peut être avec les sextoys, ça peut être les sextoys connectés, ça peut être la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ça peut même être via ordinateur, en fait, avec ta souris et tu t'amuses avec tes avatars. C'est déjà de la cybersexualité.
Et quand tu dates sur Tinder, c'est de la cybersexualité ?
Complètement.
Intéressant.
Donc, tout le monde sait déjà la cybersexualité, en fait.
Bah, tu m'apprends, du coup, tu m'apprends quelque chose. J'y apporte un peu plus de nuances là-dessus. Et on parlait de ta compagnie Imbue et de ce que tu fais aussi dans la réalité virtuelle. Est-ce que, pareil, ça c'est encore flou pour beaucoup de personnes? Est-ce que déjà tu peux nous dire bah, ce qu'est ton entreprise et ce que tu fais concrètement?
Alors, du coup, moi, à l'origine, je suis psychologue sexologue. Puis j'ai un petit peu bifurqué vers les nouvelles technologies jusqu'à monter du coup cette entreprise, enfin créer ce jeu érotique qui est dédié aux couples qui sont dans la même pièce. C'est pas pour les la distance, je tiens à préciser. Et où du coup on s'est dit bah tiens, si on utilisait la réalité virtuelle comme un médium qui pourrait permettre aux couples d'aller explorer finalement des nouvelles sexualités, des fantasmes, apprendre des choses. Par exemple, le tantrisme, avoir quelques petites bases sur plein de petits domaines, grâce du coup justement à ce médium-là, mais tout en gardant la partie tactile, connexion dans la réalité. C'est-à-dire que nous, la réalité virtuelle, elle vient pas du tout remplacer la sexualité. Ça serait un petit peu comme c'est un jeu de préliminaire, je veux dire, voilà, où tu pars dans une petite histoire qui dure 5-6 minutes. Et qui t'amène toujours après à te remettre dans la réalité et à continuer les choses dans la réalité avec tes partenaires.
Donc ouais, donc on met un casque de réalité virtuelle, c'est bien ça. Le couple est dans la même pièce, donc ça on l'a compris. Alors tu nous diras un petit peu ce qu'il voit, mais du coup donc on a ce casque-là en tant que couple et on va pouvoir être en lien, se toucher, etc. par rapport à ce qu'on voit par rapport à l'image. C'est ça, qu'est-ce qu'on voit dans ce casque?
Alors, par exemple, donc en effet, en fait, au début, tu as une application sur ton portable mobile, voilà, qui est connectée à ton casque de réalité virtuelle. Et dedans, c'est un peu comme un Netflix. En fait, tu as plein d'expériences. Donc, tu peux regarder, ah tiens, Gaudi dans la Sagrada Familia. Ah tiens, du tantrisme. Ou tiens, des sirènes dans la cité atlantique. Peu importe. Tu cliques sur le contenu qui te plaît. Là, on va te dire, bah, pour réaliser ce contenu, tu vas avoir besoin de. Un verre de vin, tu vas avoir besoin d'un fruit, de peu importe, de plein de petites choses. Tu vas aller chercher chez toi, du coup, ou les acheter, mais en général, c'est des choses très simples, ces petits outils-là. Tu vas organiser l'espace, parce que c'est un petit peu comme une scène de théâtre, en fait. Et puis, tu vas dire à ton partenaire, tiens, on enfile le casque, j'ai une surprise pour toi, tu mets le casque. Et l'autre, paf, va être plongé dans une histoire érotique. Typiquement, on a plusieurs contenus. Nous, on est aussi créateur de contenu. Donc, ça peut être, typiquement, là, on a un contenu. Tu te retrouves devant la Sagrada Familia, parce que j'habite à Barcelone, on a filmé là-bas, sur une terrasse. Et il y a un prof de tantra qui te fait un premier cours d'introduction au tantrisme. Tu es pas nu, il n'est pas nu, donc voilà. C'est juste où il va t'expliquer, bah, par exemple avec de la musique, parce qu'il joue de la guitare, c'est super bien. Bah, qu'est-ce que c'est finalement l'histoire du tantrisme? Et puis il va te faire faire des exercices de respiration, il va t'amener à penser les choses. Donc ça va être ta première introduction. Pendant que tu vas faire ça, ton partenaire sur son portable va avoir des indications qui vont lui permettre de synchroniser ses comportements à ton contenu. Typiquement, si la personne à un moment te touche l'épaule, au pile au moment où la personne te touche l'épaule, ton partenaire va te toucher l'épaule exactement de la même manière. Ce qui fait qu'on mélange le réel et le virtuel, que ça te crée cette sensation de connexion déjà avec le contenu, mais aussi c'est ton partenaire qui t'offre cette expérience et pas coupé de cette personne-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du contenu, on te ramène toujours à ton partenaire. Donc typiquement, à la fin de ce contenu-là, le prof de tantra te dit, il faut du courage pour réussir à s'ouvrir aux choses. Maintenant, je vais te laisser rejoindre ton partenaire. N'oublie pas de l'aimer, de faire ci, de faire ça. Donc ça, c'est pour des contenus un peu plus éducatifs. Après, on a des trucs un peu sexy hein, quand même. On a par exemple un striptease de monstre. Mais il y a toujours une part éducative. Donc pendant le striptease, avant, tu vas rencontrer un monstre dans un appartement et elle va te poser des questions sur quelle est ta vision de la norme, du monstrueux. T'amener aussi à réfléchir sur le fait qu'on a déjà en fait eu des fantasmes sur les monstres. Je pense à Twilight, à La Belle et la Bête, etc. C'est des choses qui sont déjà dans nos cultures.
Ah ouais, parce que j'avais posé la question. Les monstres, j'allais dire, le but, c'est de pouvoir exciter, s'exciter là-dessus aussi, au-delà de l'éducation.
Ça marche hyper bien, c'est hyper drôle quand on le fait tester aux gens. À chaque fois, ils sortent, ils disent « Oh mon Dieu, je crois que je suis furie, je crois que j'adore les monstres. » Et c'est hyper drôle parce qu'en fait, la réalité virtuelle, c'est tellement bluffant que tu te retrouves à apprécier des choses que tu ne pensais peut-être pas forcément apprécier. Typiquement, on a eu, je donne cet exemple-là, qu'on peut voir dans un des documentaires de France 2, où Adriana Carambeu, qui est une modèle... avant que je lui fasse tester l'expérience où c'est une femme qui drague, elle me dit ah non mais impossible, moi je suis absolument hétéro, ça va pas marcher. Elle enlève le casque et elle était super choquée. Elle me dit j'ai envie de la toucher, en fait c'est bizarre mais ça m'a excitée et je m'y attendais pas.
Et c'est dû à quoi alors ça parce que du coup, j'ai plein de questions qui soulèvent, mais déjà, pour toi, c'est dû à quoi? Du coup, avant même qu'elle utilise, elle avait cette croyance, ou en tout cas cette perception que bah non, elle est hétéro, donc ça lui ferait rien. Qu'est-ce qui change quand elle met ce casque?
Pour moi, il y a deux choses. Il y a un, la première chose, c'est que si tu es hétérosexuel, a priori, tu vas potentiellement pas te retrouver dans des situations de drague. Authentique ou assez naturel avec une autre personne. Donc, vu que tu l'as jamais expérimenté, tu le sais pas forcément. Ça va te plaire pour une fois, hein. Ça veut pas forcément dire qu'elle est pas hétérosexuelle. Hein. L'autre chose, c'est que mine de rien, vu que c'est de la réalité virtuelle et que c'est pas complètement la réalité, tu vas potentiellement plus t'autoriser à explorer qui tu es ou ta sexualité dedans.
Parce que un peu comme les fantasmes, quoi.
Ça compte pas vraiment, c'est pas la vraie vie. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui me fonctionnent dans le fantasme, mais qui vont pas fonctionner dans la réalité. Voilà, ou pas vraiment. Je donne souvent l'exemple de tu peux très bien fantasmer sur un plan à plusieurs, et puis en fait, dans la réalité, c'est compliqué en fait. Ça peut être très nul en fait, parce qu'il faut des connexions, parce que c'est pas si simple, parce que voilà. Mais par contre, ça va toujours fonctionner dans le fantasme. Parce que c'est un espace de liberté qui est différent, c'est en rapport avec l'imaginaire.
Oui, pour rebondir là-dessus, dans le cas où tu parlais là de ce prof de tantra, imaginons, voilà, il y a le partenaire ou la partenaire qui met ce casque et qui vit cette expérience-là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent aussi « Ah bah non, mais là, c'est presque tromper mon partenaire ou ma partenaire » ou « Alors là, c'est bizarre qu'en fait, ce soit une personne qui me touche dans la virtualité et en fait, dans la réalité, c'est différent. » Est-ce que tu as ce genre de remarques aussi?
Complètement. Mais c'est évident en plus. Que c'est tellement... Donc ça, c'est souvent des peurs que les gens ont avant d'avoir testé le contenu. Ce qui peut se comprendre. Parce qu'on se dit « Ok, mais comment est-ce que ça va se passer ?» Et aussi parce qu'on a beaucoup en tête, en fait, le porno. Alors que finalement, nous, nos contenus, quand on le fait tester aux gens, après, ils disent « Oh, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça, en fait. » Parce que c'est excitant, mais par exemple, on a très peu de nudité dans nos contenus. Ça va être du flirt, donc c'est beaucoup des jeux de regard. C'est assez subtil, et souvent, aussi. Donc c'est subtil, c'est excitant, mais ça, c'est pas forcément du cul pour du cul, quoi. Je vais le résumer comme ça. Donc il y a ce premier truc là. L'autre chose, c'est que nous justement on a réfléchi à ces angles là et du coup il y a trois choses qu'on a fait pour éviter ce sujet. Déjà, un, c'est le cœur du contenu, c'est pas l'autre personne dedans, c'est pas l'acteur, c'est pas l'actrice. Ouais. Le cœur, c'est l'histoire. Et en fait, le fait que ça soit l'histoire, ça change quand même un peu la donne. On a aussi des corps qui sont très normaux. Alors, peut-être qu'à un moment, on aura des personnes qui ont un corps très, très, très sexy, etc., selon les normes d'aujourd'hui.
Ok, parce que oui, j'avais demandé, c'est quoi des corps normaux, du coup, de ce que tu disais, qui correspondent à la norme
À la norme et un petit peu au cliché porno, quoi. Peut-être qu'on peut avoir des contenus comme ça, c'est pas... Mais aujourd'hui, typiquement, on a des personnes... On a des vrais acteurs, en fait, déjà. Donc, c'est des acteurs qu'on choisit pour leur qualité d'acting. Voilà. D'où le fait qu'ils ne fassent pas du porno aussi, parce que ce n'est pas exactement le même investissement. Et du coup, on a tout type de physique, de personnes, et on les choisit sur leur authenticité beaucoup plus. Et on crée les contenus avec eux. C'est typiquement là, par exemple, on va faire un contenu avec un magicien, qui est un vrai magicien, qui est jeune, qui se passe sympa, bah, on l'a choisi parce qu'il était magicien, pas pour son physique. Et parce qu'il a des vrais... voilà, parce que c'est trop intéressant de faire un contenu érotique avec de la magie, quoi. Moi, je trouve ça trop sympa. Et on crée le contenu et l'histoire ensemble. Donc, ils ont une part de liberté dans le script. C'est pour ça qu'on ne peut pas doubler les scripts. Enfin, parce qu'il y a vraiment de eux. Donc, le script, s'il est fait par eux, je ne peux pas dire, ah bah tiens, il y a un nouvel acteur qui va refaire le truc. Non, c'est cette personne-là, en fait. C'est son message. Donc, ça, c'est le premier truc donc, par rapport aux personnes qu'on a dedans. Par rapport au choix, quand les personnes vont choisir le contenu, on s'est bien posé la question de la jalousie. Et du coup, on s'est dit, il ne faut pas que ce soit la personne qui a le casque qui choisisse. Il faut que ce soit le partenaire qui offre l'expérience qui choisisse, ou alors qu'ils choisissent à deux. Donc, en fait, on va leur proposer un contenu. Et vous avez 5 secondes pour dire oui, non. Et paf, sinon, ça vous propose un autre contenu. Donc, ça, c'est des solutions qu'on a mis en place pour éviter ce côté-là, cette peur-là. Et après, le troisième point qu'on a mis en place pour éviter ça, et je suis en train de me dire, je me suis perdue. Donc, comme j'ai dit, il y a eu les acteurs.
Le cœur du contenu, c'est l'histoire. Le deuxième, c'est le couple qui peut choisir. Donc, c'est vraiment collaboratif aussi. Et déjà, voilà. Quand tu racontais tout ça, je comprends que mon imaginaire érotique, il est là en train de faire boum, quoi, déjà, sans avoir même testé.
Ouais, et après, il y a l'autre chose, c'est que vu que c'est quelque chose qui continue dans la réalité et que c'est l'autre qui te procure cette expérience, ça, c'est quelque chose que les gens ont peur quand ils n'ont pas testé, comme j'ai dit. À chaque fois. On teste le contenu dans les festivals ou notre jeu. Le premier truc que les gens font toujours en enlevant le casque, c'est de nous faire un câlin. Alors qu'on ne se connaît pas, hein, je tiens à préciser. C'est très bizarre. Ils nous prennent dans les bras, ils vont nous offrir une bière ou un truc comme ça. Et c'est super drôle parce pendant le festival, après, ils ont l'impression qu'on se connaît super bien. Parce que du coup, je leur ai fait l'expérience ou mon associé leur a fait l'expérience. Et bon, ce sont des expériences plus courtes et plus soft, évidemment. Hein. Voilà.
C'est parce qu'ils vivent l'expérience avec vous, c'est ça, c'est vous qui leur proposez l'histoire, enfin vous choisissez l'histoire ensemble et eux mettent le casque.
Voilà, ils mettent le casque et il n'y a pas de sexualité hein, dedans, je tiens à préciser parce que c'est évidemment oui, c'est pas mon métier, hein, voilà. Mais du coup, ils ont cette. Et en fait, on voit bien que les gens ils se retournent vers l'autre. L'autre chose, pourquoi est-ce que ce truc-là est important, c'est parce qu'en fait, notre jeu il a été basé sur des recherches en neurosciences sur l'empathie et la réalité virtuelle qui ont été menées depuis 12 ans par d'ailleurs le collectif qui s'appelle Beyond Other Lab dont mon associé en fait fait partie à la base, il a été le fondateur de ce collectif là et c'était à la base utilisé pour lutter contre le racisme, l'exclusion des personnes, pour permettre aux gens d'avoir de l'empathie avec des communautés qui sont défavorisées, etc., se mettre dans la peau des autres. Donc, je pense que le fait que ce système-là, il a été développé pour ça à la base, finalement, il fonctionne bien, en fait, dans le couple. Et on a jamais eu de gens qui, après, se disaient « Ah non, moi, je pourrais pas utiliser ça dans mon couple. » En fait, à chaque fois, ils se disaient « Ah ben non, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est pas pornographique, c'est complètement différent. » Et ça crée pas de jalousie en fait. Après peut-être que ça en créera, enfin je vais pas être là. Mais du coup je suis pas sûre que dans ce cas-là ils aient envie de tester le jeu, enfin, voilà.
Ouais, c'est dans un autre cadre, comme tu dis, si c'est le couple choisit ensemble, c'est un jeu collaboratif, c'est pour vivre une expérience, peut-être qu'il y a une ouverture différente aussi là-dessus. Et la question qui me venait, parce que dans tout ce que tu disais il y avait la question aussi de la notion de consentement, est-ce que le consentement il existe dans la réalité virtuelle?
Il existe et il est hyper important. Il est important et pour plusieurs raisons. Donc, il y a la réalité virtuelle. Je parle déjà, par exemple, dans notre jeu, pour les contenus pour femmes, moi, je fais hyper attention à ça parce que sinon, en fait, c'est hyper étrange d'avoir quelqu'un qui... Parce que mine de rien, c'est une autre personne, un peu. Ou ça peut être un personnage animé, hein, mais qui te touche. Et ce qu'on a vu avec, par exemple, le contenu sur le tantra, c'est que, par exemple, la personne, dans ce contenu-là, l'acteur, il demande à chaque fois le consentement. Je vais te prendre la main, je vais faire ça. Mmh. Et à chaque fois, les femmes vont dire « Ah, c'est très agréable d'avoir ça et de savoir ce qui se passait. » Donc ça, c'est le premier truc. Donc dans nos contenus, moi, je pense que c'est important. Ou alors, on en parle avant. Ou alors, il y a plein de petits moyens où pour nous, on est obligé en fait, de le faire, sinon ça surprend trop. Pour les femmes, majoritairement.
Oui, et d'ailleurs, justement, à ce moment-là, quand la personne, imaginons la femme, dit non, est-ce que là, du coup, dans la réalité virtuelle, il y a un ajustement qui est fait par rapport au scénario ?
On ne peut pas le faire aujourd'hui. On pourra le faire plus tard, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais ce que tu peux faire, c'est enlever le casque.
Et ça arrête l'expérience. Ok, ouais.
Arrête l'expérience.
Il y a un stop.
Ton partenaire peut mettre pause aussi. Hein, donc, tu peux mettre pause et me dire ok, voilà. Donc, tu peux changer la scène aussi. Enfin, tu peux changer la scène, okay. Etc. Avancer. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Dans la réalité en général, évidemment que le consentement est important, mais je crois que le consentement est important partout. Enfin, voilà, dans tout. Mais aussi, il y a une autre raison pour laquelle c'est important. Alors, j'ai précisé les femmes, les hommes aussi en soi. Hein. C'est juste que, par exemple, je vais donner cet exemple. Il y a des recherches qui ont été menées sur la réalité virtuelle et l'utilisation pour les femmes. Et pourquoi est-ce que les femmes sont finalement moins utilisatrices parfois de réalité virtuelle ? Et ça, c'est une donnée importante parce qu'il y a un truc qui est fort dedans. Je me rappelle le nom de la recherche, je suis désolée. C'est qu'en fait, les femmes, elles ont tendance à enlever le casque beaucoup plus rapidement que les hommes quand on ne les a pas prévenus, etc. Quand il n'y a pas eu, par exemple, un petit rituel avant qui permet d'expliquer un petit peu ce qu'elles vont voir, etc. Et ça, c'est dû à un truc tout bête. C'est que, en fait, quand tu mets un casque, malgré que tu aies la vision et le son, c'est pas ta vraie vision et ton vrai son. Donc finalement, tu es privé de tes sens dans un sens, de tes sens réels. Sauf que la majorité des femmes, je pense que là on s'est d'accord, ont expérimenté des agressions, du harcèlement, etc. Et que du coup, on a besoin absolument de nos sens pour une question presque survie.
Survie. De protection, de survie.
De protection, de survie. Et donc, on a besoin d'avoir ce contrôle sur notre environnement. Et ça, alors, ils ne disent pas forcément que c'est à cause de ça, mais c'est plus moi qui pense que c'est lié aussi à cette donnée-là. Il y a d'autres raisons hein, pourquoi. Il y a aussi le fait que les casques ne sont pas forcément faits exactement pour les femmes en termes de poids, en termes de la vue, etc. Donc, il y a des choses qui sont proprement parlées du casque actuel. Et puis, après, il y a cette donnée-là. Nous, par exemple, on est en train de réfléchir justement à trouver une solution pour contrer cet effet-là, pour pouvoir faire que ça soit plus inclusif pour les femmes et que ça soit moins stressant pour elles d'utiliser la réalité virtuelle. Ça peut être activé d'un seul coup, casquer l'expérience en plein milieu et passer en mode où on voit le monde extérieur. Il y a plein de choses qu'on peut faire, on est en train de réfléchir à ça. Donc, il y a cette raison-là qui fait qu'il faut vraiment avoir confiance en son partenaire. Et c'est pour ça que les couples, c'est important. Moi, ça me semble important que dans le couple, les choses, elles soient discutées. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve, peut-être que tu en as discuté avec des gens qui parlaient dans les sex toys, mais dans mes études, à l'époque, j'ai travaillé dans les sex shops beaucoup. Et souvent, les personnes me disaient « Ah, je vais offrir un sex toy surprise à ma femme. » Et j'étais là « Alors, c'est double mon copain, parce que soit ça lui fait très plaisir, soit ça va être hyper brutal en fait. Et en fait, j'ai dit, en fait, il faut que vous en ayez parlé avant, parce que c'est un beau cadeau que toi t'as envie de faire, mais peut-être qu'elle, elle va pas le prendre de cette manière-là. Et donc là, c'est toujours pareil, c'est que il faut que le jeu il soit discuté avant. Le contenu, tu peux pas simplement dire, ah, c'est un contenu surprise, parce que peut-être que je vais avoir un truc qui va trigger une agression que j'ai eue. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Et ça, c'est plutôt. C'est ce qu'on appelle dans le milieu, c'est de la gamification. Et de. Voilà, c'est comment est-ce qu'on adresse le jeu, comment on adresse un rituel spécifique pour amener les expériences, etc.
Oui, c'est ce qu'on appelle le container, là, aussi de créer ce cadre, en fait, rassurant, comme tu dis. Et on le voit même dans la réalité. Réel, je ne sais pas comment on pourrait dire dans la réalité, point. Mais pour les femmes en consultation, en sexo, qui répètent, et encore une fois, ce matin encore c'était le cas, mais qu'elles ont besoin d'un cadre rassurant, parce qu'on vit dans un environnement qui peut être apeurant, effrayant, de par tout ce que tu as dit, les agressions et le fait de se sentir constamment comme une proie aussi au niveau de la sexualité, tout ça. Donc, ouais, une des pistes aussi. Pour votre outil de casque, comme vous disiez, de penser à tout moment, elles peuvent revenir dans la réalité, ou alors même aussi, il y a des applications aussi, j'avais travaillé pour une application qui justement propose aussi des jeux érotiques, alors via une application, pas du tout en réalité virtuelle, mais qui propose en amont ce qui va être, en tout cas, les pratiques qui vont pouvoir être mises en place en amont pour voir si on est OK ou pas, les objets qui vont être utilisés. Comme ça, en amont, il y a le consentement, même s'il peut être révocable à tout moment, on peut arrêter à tout moment. Oui, mais ça, ça permet d'entrer dans l'expérience en sachant un petit peu le cadre, quoi.
Complètement. Et puis après, nous, on a des catégories, en fait, dans notre jeu. Donc, tu peux passer les catégories, voir un petit peu. L'autre chose, et puis ça, c'est quelque chose, par exemple, moi, je sais que j'ai... j'ai utilisé la réalité virtuelle dans le cadre de mes consultations. Et je fais de la réalité virtuelle beaucoup. C'est ma deuxième passion après la sexologie, quoi. Donc, vu que c'est ma passion, moi, je ne me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait être effrayant de mettre un casque. Je fais ça tous les jours. Donc, voilà. Et je me rappelle qu'une fois, souvent, je disais, parce que c'était un truc, je disais, la séance prochaine, on va utiliser de la réalité virtuelle. Mais vous verrez, c'est une surprise. Enfin, je vous expliquerai. Et en fait, un jour, j'ai reçu un mail d'une de mes patientes qui me dit, j'ai eu vachement peur quand vous m'avez dit ça, etc. Donc, elle m'a écrit un long mail en m'expliquant qu'elle a trouvé que mon approche, elle était pas bonne, quoi. Parce qu'elle avait clairement raison. Mm-hmm. Moi, je m'en ai pas rendu compte. Et du coup, après, j'ai dit, évidemment, au-delà des excuses que je lui ai fournies, je lui ai dit, en fait, voilà ce que je vais faire, etc. Et là, ça l'a beaucoup rassurée. Elle me dit, ah, ok. Mais je m'étais pas rendu compte à quel point le concept du casque, mm-hmm. en fait, pouvait être problématique. Vous pouvez faire peur. Alors aujourd'hui, c'est plus démocratisé. Hein. Ça, c'était il y a quelques années. C'est plus démocratisé, mais mine de rien.
Mais encore.
C'est quelque chose qui. Enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait attention à ces choses-là. C'est parce qu'on s'est dit, là, en fait. C'est important de faire attention au cadre. Et comme tu disais, il y a le cadre, mais il y a aussi les rituels, en fait, pour ramener, qui sont à peu près la même chose que finalement le aftercare pour le sexe, que ce qu'on fait, et puis les
préliminaires,
l'approche lente dedans, qui fait partie intégrante, en fait, aussi de la sexualité, d'une sexualité épanouissante.
Ouais. On reviendra sur les consultations en sexologie en réalité virtuelle, mais tu parlais là du casque, et il y a des casques, parce que tu vois l'utilisation de la réalité virtuelle, tu me disais en offline que c'est pour les femmes c'est plus complexe, alors c'est peut-être ce que tu as déjà abordé, mais j'entends aussi que, parce que tu vois on sait que notre monde est comme beaucoup de produits, d'outils, ça a été pensé par et pour des hommes, et là j'ai l'impression quand même que dans la réalité virtuelle, le casque, tu vois tu parlais du poids qui peut être différent, des choses comme ça, donc c'est aussi pensé du coup pour les femmes.
Alors moi je trouve que les casques ne sont pas aujourd'hui... Alors, il y a deux choses, c'est qu'ils peuvent pas les rendre plus légers aujourd'hui. Il y a une question de difficulté, c'est une toute nouvelle technologie. Hein. Souvent, il y a des gens d'ailleurs qui me disent « Ah oui, mais ça, c'est pas parfait », mais ça, je dis « Enfin, c'est le début, c'est comme le début du cinéma, tu peux pas tout avoir maintenant, et c'est déjà bien, en fait, ce qu'on fait. » Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la difficulté à réduire le poids. Mais il y a aussi le design qui pourrait être amélioré pour les femmes. Il y a des choses comme ça que j'espère que les créateurs de casques vont améliorer.
Manière le design, c'est quoi pour toi qui peut faire une différence?
Je pense, en fait, le design de poids, c'est surtout l'espacement entre les yeux, en fait, qui est plutôt pas majoritairement à l'intérieur du casque, où du coup, ta vision, ça va être, même si tu peux la modifier un petit peu, ça va être peut-être moins... agréable pour les femmes. Pareil, le fait que finalement, si les femmes ont un peu plus peur de l'utilisation du casque, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui te permette facilement de sortir du casque. Mais par exemple, ça pourrait être, j'invente un truc, mais par exemple, tu tapes deux fois sur ton casque et paf, t'as augmenté. Donc tu vois ta pièce. Ça peut être des petites choses comme ça qui pourraient être travaillées, je pense, pour permettre aux femmes d'être plus à l'aise dedans. Et puis après, il y a les contenus, mais les contenus, c'est... Étonnamment, il y a quand même pas mal de femmes qui sont de plus en plus dans la VR. Mais je pense que voilà, on pourrait avoir plus de contenus faits pour les femmes, etc. Je dis faits pour les femmes, c'est voilà qui enfin, par exemple, dans le cadre de la sexualité, clairement, pour tous ceux qui ont eu la chance ou la malchance d'avoir du porno en réalité virtuelle, C'est drôle.
C'était ma première expérience en réalité virtuelle, c'est un porno et tout, et je suis là, waouh, ok. Et en même temps, ouais, super excitant, en même temps, je peux comprendre qu'on puisse passer facilement à ça, même si pour l'instant, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui peut... Enfin, c'est un coût, j'imagine, de ce que tu peux nous dire, parce que j'en ai aucune idée, d'avoir un casque de réalité virtuelle chez soi, c'est quoi?
Alors, le coût qui est en train d'être réduit, mais le coût en moyenne, on va dire, c'était 400 euros pour un casque. Sachant que le casque, c'est comme une PlayStation, hein. Tu peux l'utiliser, tu rajoutes les jeux, et puis après, tu achètes les jeux. Il y en a certains qui sont gratuits. Tu achètes les jeux, c'est comme l'App Store que tu as sur ton portable. Tu vois les jeux, tu cliques dessus, bam, ça me download. Et là, tu peux avoir tout plein de jeux différents. Okay, donc, il faut se dire 400 euros. Puis, on va dire que bon, voilà, des jeux, les jeux, ils sont en moyenne entre, je vais dire, 20 à 50 euros.
Enfin, 10, ouais, c'est un peu comme voilà, prendre une... Enfin, je ne sais même pas le coût d'une PlayStation, hein, mais c'est un peu la même chose, en fait, le même principe.
Oui, c'est à peu près le même principe. Donc, ça coûte cher, mais parfois, c'est ce que je dis aux gens. Il y a aussi le fait, bah, regarde nos portables, on les paye 1000 euros, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà, et c'est une toute nouvelle technologie. Et le prix, en fait, n'est pas cher parce qu'ils ne vendent pas. Ils vendent... Alors, déjà, Facebook... Hein, Oculus, du coup, Meta, là, maintenant, vendait à perte avant. En fait, parce que, ils ont quasiment pas de marge, hein, sur les casques. Même la plupart ne se font pas de marge, en fait, sur les casques.
Parce que, comme tu disais, c'est une technologie toute nouvelle, donc comme tout, ça coûte extrêmement cher. Et comme on essaye, les compagnies essayent de le démocratiser au maximum, font à perte pour le moment, c'est ça?
Exactement, exactement. Et pour les studios aussi, parfois, ça peut être... compliqué parce qu'il n'y a pas autant de personnes qui ont des casques des PlayStation. Donc, il y a tous ces coûts-là qui peuvent être importants. Dès que le casque, dans 3 ans, tu as ton casque qui a évolué, bah, il faut que tu recrées un code pour ton nouveau jeu sur le nouveau casque. Créer un code en réalité virtuelle, c'est 20 000 euros, quoi. Enfin, donc, si tu peux changer ton jeu au bout de 3 ans, tu es là, ah, petite dépense quand même.
Ouais, non, ouais, donc c'est pas encore, comme tu disais, il y a encore de l'amélioration, et puis surtout, c'est pas encore tout le monde qui peut l'avoir dans son domicile. Et la question aussi, comme, bah voilà, on est au service de la sexologie, toi et moi, comment l'utilisation de la VR, de la réalité virtuelle, peut être au service de la sexologie?
Alors, dans plein de domaines. Si je parle de la thérapeutique, de l'aspect thérapeutique, typiquement, moi, j'ai utilisé, comme je disais, la réalité virtuelle avec mes patients-patientes. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des jeux qui sont déjà très bien. Enfin, j'en cite un. Je vais le citer parce que c'est déjà quelqu'un de génial. Donc, voilà. Il s'appelle Where the Thoughts Go, Où vont mes pensées, de Luca Risotto. Et ce jeu, il n'y a pas de sexualité dedans, rien du tout. Mais tu te retrouves dans un monde et il y a une question qui... apparaît devant toi. La question, ça peut être, il y en a plein. Là, la question, ça va être, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si tu te re-rencontrais quand tu avais 6 ans avec le regard d'adulte que tu as aujourd'hui? Quel conseil tu te donnerais? Et donc, bon, la question disparaît. Et là, il y a plein de bulles dans le ciel et tu attrapes une bulle et tu entends la réponse de quelqu'un qui est passé dans le jeu avant. C'est hyper émotionnel. Et en fait, tu as tout ça et après, toi, tu enregistres ta réponse. Et puis, en fait, tu as tout un processus. Je ne vais pas, spoiler tout le jeu. Il est vraiment bien. Et en fait, moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'utilise dans le cadre des thérapies parce que ça permet aux gens d'être un petit peu, pendant un moment, leur propre psychologue, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Alors, c'est un jeu que je vais leur faire jouer. Et puis après, on va voir 20 minutes, 30 minutes. On va discuter des choses en général. On pleure pas mal dans ce jeu.
J'imagine, rien que là j'avais des frissons à écouter. Je me disais, waouh, moi dans cette position, mais génial. Mais c'est un accélérateur aussi, hein. Comme tu disais, là c'est donner l'opportunité aux patients-patientes d'être leur propre psychologue et du coup aussi un accélérateur parce qu'ils sont ils sont moteurs de ça finalement.
Ouais, complètement. Et puis t'as le fait que t'entends en fait d'autres réponses, d'autres personnes, tu te sens moins seul. Et puis t'es dans ta petite bulle et puis il y a une musique qui est bien. Et c'est vraiment, moi, ça a été vraiment très, très fort quand je l'ai fait. Ça parle de l'amour, ça parle de la mort, ça parle de toutes ces choses-là. Et ça, c'est des données importantes, même en tant que sexologue, mine de rien, sexualité, ça fait partie de la vie. Donc, il y a d'autres choses qui comptent sur la sexualité, son rapport à son corps, etc. Donc, il y a par exemple des jeux comme ça. Il y a, par exemple, moi, dans le traitement des phobies ou des peurs de son corps. Typiquement, souvent, ce que je faisais, c'est que j'allais créer des petites scènes. Bon, voilà, 3D. Donc, du coup, je créais des scènes pour mes patients-patientes où ils pouvaient mettre le casque et, par exemple, explorer d'abord un corps virtuel avant d'explorer leur propre corps. Donc, ça sert un petit peu de petite marche avant de passer dans la réalité. Beaucoup utiliser la réalité virtuelle pour traitement des phobies. Donc ça peut être ça. Ça peut être avec des personnes transgenres qui n'ont pas encore fait leur transition, qui souffrent beaucoup de ça, et que du coup, bah, je vais pouvoir les mettre dans le corps, dans le genre qui leur appartient réellement, dans leur genre réel, et ils vont pouvoir parler, être dans ce genre-là, explorer ce que ça fait d'être dans ce corps, etc. Et ça, c'est des choses qui émotionnellement sont fortes. Je pense à une autre chose sur les personnes transgenres. Mon associé disait qu'à la base, notre jeu, il a été, la méthodologie, elle vient de Another Lab, qui est une association qui lutte contre le racisme, les violences, etc. Ils ont un contenu qui est incroyable, où tu es dans la peau d'une personne transgenre, dans une gare, tout bête. Et tu expérimentes le regard des autres sur toi. C'est horrible. C'est une violence. Et c'est des regards normaux. Hein. Enfin, pas normaux, mais c'est pas... c'est des vrais regards. De vraies personnes qui te jugent. Ils disent, c'est tellement dur à vivre. Et c'est tout simple. Parce que c'est une scène très banale que ces personnes-là vivent. Et à la fin, en fait, tes amis qui viennent et qui te prennent dans les bras et qui disent, ça va aller. Et à ce moment-là, t'es tellement content d'avoir tes amis qui arrivent pour te supporter à ce moment-là, pour t'aider. Et du coup, ça peut être usé pour ce cas-là, typiquement. Pour l'empathie aussi. Par exemple, je pense à Gender Swap Machine, où tu peux échanger de corps en temps réel.
J'allais en parler de ça. Je le vois souvent passer sur ton feed. Ouais.
On a fait, il y a eu cette émission de France 2 où ils sont venus tester ça, qui a été super, où ça a été hyper intéressant pour eux. On a eu récemment Cara Delevingne qui est venue le tester aussi, et c'est assez intéressant. Moi, je l'ai fait avec mon partenaire à une époque, et c'était vraiment, c'est quand même, c'est dans le corps de l'autre. En temps réel, c'est incroyable. Et du coup, tu bouges en
c'est ça, c'est, on change de corps, on va dans le corps du ou de la partenaire ou même d'une autre personne finalement, c'est
oui,
ça.
Oui, d'une autre personne en temps réel. Et du coup, c'est hyper intéressant pour comprendre comment est-ce que l'autre peut se percevoir, etc. Et puis du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, en fait, c'est une performance d'art, donc c'est pas forcément... vous pouvez le faire dans un musée en Suisse, mais je sais plus lequel. Ok. J'ai un peu le... Mais du coup, quand on enlève le miroir qui est en face et la séparation entre les deux personnes, en fait, tu te vois toi-même. Ce qui est très bizarre, du coup, parce que tu es dans le corps de l'autre et tu te vois. Et même ça, par exemple, moi, je pensais pour traiter, par exemple, la dysmorphophobie. C'est hyper intéressant. Il y a plein de choses intéressantes. Et après, dans la sexo, il y a, par exemple, tout simplement, nous, ce qu'on fait dans notre jeu, c'est ce qu'on veut faire, c'est j'ai envie d'explorer des choses, de casser la routine dans mon couple, de développer mon imaginaire érotique. Mais parfois, comme je dis souvent, le monde de Peter Pan, il est un peu loin. Pour les adultes, on a tellement de responsabilités qu'on a du mal à rêver, à fantasmer. À être dans le jeu, c'est compliqué. Et donc, du coup, là, nous, on vient offrir une aide à l'imaginaire érotique qui permet après, toi, de te développer. Et on le voit beaucoup dans nos contenus, parce qu'à chaque fois, quand on fait les expériences aux gens, on leur fait deux questionnaires, un questionnaire avant, où on leur dit, qu'est-ce qui te ferait fantasmer, c'est quoi tes fantasmes ? Classique, soit il y en a qui mettent « j'en ai pas », soit il y en a qui mettent « point à trois », les un peu classiques de fantasmes. On leur fait tester l'expérience, un ou deux contenus, c'est quoi tes fantasmes ? « j'aimerais bien une orgie romaine », j'étais en train de réfléchir que si j'étais dans l'espace, mais... et là, en fait, tu dis, c'est parti, quoi. On leur a mis deux contenus, et là, ils sont en train de se dire, attends, mais en fait, on peut tout faire dans la réalité virtuelle. Donc, mon imaginaire, je peux tout faire dedans. Je ne suis pas obligée de rester sur un script strict. C'est marrant à dire.
se brider aussi, ou même là, ça donne la possibilité, ah, dès qu'on a accès, à se dire, oh, en fait, ouais, mon désir est là, mon imaginaire, il peut être là, il peut être nourri, et en plus, je peux avoir accès parce que je sais que je ne suis pas obligée de faire dans la réalité non plus.
Complètement. Il y a vraiment ce truc-là où il y a beaucoup de choses qu'on a, sur lesquelles on peut fantasmer, mais qu'on ne peut pas faire. Dans la vraie vie, ça va être naze, quoi. Je donne... Bah, le meilleur exemple, c'est le plan à plusieurs, hein, où bah, entre la réalité et soit tu as un coup de bol et tu tombes sur une super connexion avec les gens, soit sinon c'est compliqué. Ça peut être même des choses où voilà, tu peux très bien avoir envie même d'explorer avec d'autres partenaires, mais finalement, c'est très exclusif. Et donc, en fait, tu n'as pas envie dans la vraie vie d'avoir quelqu'un d'autre, même si ça peut te faire fantasmer. Et donc là, nous, on va te permettre finalement de jouer et de dire, bah, c'est. J'ai cette sensation qui est réelle, mais mes émotions sont réelles, mes sensations sont réelles, mais ce n'est pas la réalité. À tout moment, j'arrête, à tout moment, j'enlève le casque, à tout moment, voilà, ça n'engage pas finalement autant qu'une expérience réelle.
Il y a une question qui me venait du coup dans le cas, reprenons l'exemple du plan A3, imaginons une personne à ce fantasme-là et se dit oui, mais de toute façon, dans la réalité, ça ne sera pas forcément terrible, puis utilise le casque de réalité virtuelle qui est presque comme la réalité, tu te dis, ah ben non, finalement, ça me fait extrêmement fantasmer, donc je vais le reproduire dans la réalité. Est-ce que tu as ça, des fois, des gens qui se disent, bah, ce fantasme, je ne suis pas trop sûre, puis finalement, ça va nourrir, ça va les pousser à ouais, l'action, on va dire.
Complètement. Ça, c'est le truc. C'est, voilà, soit ça te nourrit et tu continues, alors peut-être après, tu peux avoir plusieurs contenus sur le même sujet, soit tu vas du coup te dire, ah bah du coup, je me sens plus à l'aise de passer la porte de ce fantasme-là dans la vraie vie avec mon partenaire. Et ça, j'ai un exemple, le truc qui est trop drôle. On a un contenu qui est un striptease de créatures hybrides monstres. Okay. À chaque fois que je monte le contenu sur un portable, les gens me disent « Ah non, mais impossible, je fantasme là-dessus, moi, c'est mort. C'est... » voilà, c'est pas possible, quoi. Et puis, on leur met le casque. Et dans le cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il y a une partie quand même un petit peu éducative. Donc, tu te retrouves avec le contenu que je te montre. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs, justement. Mais ce qui est marrant, c'est que voilà, ce truc-là, après, il y a des gens qui vont dire « Ah, bah, peut-être que j'aimerais bien tester des petites oreilles de chat. »
Ah. Oui, ce que j'allais dire, c'est pas évident de trouver un monstre après dans la réalité.
Non, t'as pas besoin du monstre. Du coup, tu vas faire les petites oreilles de chat, tu vas peut-être trouver un plug avec des trucs comme ça. En fait, c'est marrant parce que comme je dis, en fait, c'est un peu drôle, mais parce que je pense que je suis en train de créer un jeu avec son obsolescence programmée directement dedans, puisque je pense que tu n'as plus du tout besoin de notre casque, puisque ton imaginaire est ouvert. Mais d'ailleurs, c'est le but.
Ça serait bingo. Ça serait bingo. En même temps, si c'est ça le miracle, on va dire, il y aurait combien de consommateurs et consommatrices, finalement?
Clairement. Et puis en plus, en fait, je pense que les histoires sont marrantes, sont drôles, sont sortes de l'ordinaire. Les gens, ils auront envie de retester des trucs. Mais c'est ça le vrai but. Le vrai but, c'est qu'à un moment, tu n'as pas besoin de ton casque, tu le laisses à côté et peut-être que tu joues le zombie avec ton partenaire. Tu joues le monstre avec ton partenaire dans la vraie vie et t'en rigoles. Et c'est ça qui est beau, en fait, finalement. C'est de voir comment est-ce que derrière, tu peux t'ouvrir des portes simplement parce que tu as utilisé un peu la réalité virtuelle, qui est un médium qui est incroyable. Hein. Il y a beaucoup de gens, ceux qui n'ont jamais testé. Enfin, j'invite vraiment les gens à tester. Et pas tester juste un jeu de tir. Il y a beaucoup de choses. Il y a des documentaires incroyables dans la réalité virtuelle. Il y a des gens qui font des choses magnifique, vraiment magnifique. Il faut aller explorer un petit peu, regarder ce qui vous plaît.
Donc tu regardes le documentaire, genre avec tes lunettes, tu vas dans ce monde-là et puis tu regardes le documentaire via ces lunettes, c'est ça, de réalité virtuelle.
Ouais, et c'est des documentaires courts et c'est des documentaires interactifs et c'est du commentaire qui sont émotionnellement forts. Je pense à un documentaire particulièrement que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Key, la clé, et qui est sur les réfugiés dans la souffrance, le trajet des réfugiés. Moi, j'ai enlevé le casque, franchement, il m'a fallu 10 minutes pour arrêter de pleurer, quoi. Et vraiment, je me suis dit, waouh, ok, là, c'est quelque chose d'autre. Parce que j'ai déjà vu des documentaires dessus, j'ai travaillé un peu dans ce milieu-là aussi, donc, avant d'être sexologue. Donc, voilà, mais là, vraiment, il y a une émotion, il y a une empathie qui est telle. que c'est très difficile de la retrouver, je pense, avec un film. Ou alors, il faut un long film.
Voilà. Parce qu'il manque la dimension où c'est presque du réel, quoi, finalement. C'est la, le réel et l'irréel est presque une ligne très, très fine.
Là, voilà, c'est, en fait, quand bien même c'est, par exemple, des animés, des personnages animés, donc tu sais toujours hein, que t'es dans la réalité virtuelle ou dans la réalité, hein, pas clairement. Mais il y a l'immersion, la sensation de présence, l'émotion, elle est en face de toi, en fait. Et puis, tu es l'acteur. Tu es, enfin, c'est vraiment quelque chose de très différent d'être à la première personne. Hein.
Oui. Alors, vous avez tout ça, il y a encore plein de questions hein, qui me viennent aussi. Tu disais, voilà, on sait qu'on est dans la réalité, voilà, on le sait quand on est dans la réalité, on sait qu'on est dans la réalité virtuelle, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications à utiliser la réalité virtuelle? Est-ce qu'il y a des profils, des choses, des pathologies même qui feraient que ce n'est pas indiqué, tu sais?
Je ne sais pas exactement. Il y a un truc que je sais. Moi, ça me semble tellement évident que les enfants, voilà, parce que tout simplement, bon, il y a plusieurs choses, hein, pour les yeux, voilà, tout simplement, enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous, quand on était enfant, entendu nos parents dire « t'approches pas trop de la télé », voilà, là, t'as quand même le truc devant les yeux, quoi, t'as ça,
Le cerveau qui est immature aussi à ce moment-là.
Le cerveau qui est immature et il y a des vraies choses. Typiquement, moi qui utilise beaucoup la réalité virtuelle, je tiens à préciser que en plus, je ne suis pas malade en réalité virtuelle. Il y a des gens qui expérimentent une sorte de motion sickness, un petit peu la même chose qu'on peut avoir en voiture des fois. Ça, c'est que sur certains contenus d'ailleurs. Ce n'est pas tous les contenus qui font ça. Moi, je ne suis pas du tout malade et je peux passer beaucoup de temps dedans. Mais par exemple, quand j'ai beaucoup joué à un jeu. Par exemple, il y a un jeu de dessin où tu dessines en 3D. Ben, un jour, j'ai enlevé le casque et peut-être c'était peut-être 10 minutes, 15 minutes après, il y avait un dessin sur mon mur et j'ai voulu attraper le dessin. Là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, mais n'importe quoi. Et donc, voilà, il y a des petits trucs comme ça où, par exemple, quand tu utilises un casque, on te recommande souvent de passer 20 minutes, 30 minutes tranquille après. Quand je dis tranquille, c'est pas dans la rue. Parce que potentiellement, ton attention, elle est modifiée, en fait. Donc
tu pourrais traverser la rue et sans te rendre compte, finalement, des dimensions et peut-être mal calculer, finalement, que là, tu avais le temps de traverser.
Ça peut être surtout de ne pas faire attention à la voie. En fait, d'oublier tout bêtement qu'il y a une... de regarder à droite, quoi. Parce que dans la réalité virtuelle, bon, si y a une voiture à droite, c'est pas la voie du monde, quoi. Et donc, c'est plus... Et ça s'expérimente quand tu joues pas mal. Hein. Faut que tu aies joué quand même quelques... on va dire plus de 45 minutes. Voilà, nous, par exemple, nos contenus, ils durent 5 à 7 minutes. Hein.
Ouais, donc c'est encore un temps court, mais voilà, on le voit bien maintenant sur les téléphones, on passe de plus en plus de temps et on pourrait s'imaginer que dans le futur, si on a tous des casques de réalité virtuelle avec une proposition, une offre et que la technologie est de plus en plus fluide, on pourrait y passer, comme aujourd'hui sur les téléphones, les réseaux sociaux, des heures et des heures. Et avoir du coup un impact sur la réalité.
Ouais. Alors, je pense que ça sera quelque chose qui arrivera qu'avec ce qu'on appelle la réalité mixte. La réalité mixte, c'est ce qui mélange la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est concrètement comme un filtre Snapchat, comme je dis. Voilà. Et donc là, oui, ce serait possible parce que tu aurais beaucoup de réalité, en fait, dedans. Sinon, concrètement, enfin, la remplacer la vraie vie, c'est con, je veux dire, mais vraiment, moi qui travaille dedans et avec tous les gens qui travaillent dedans et qui sont des consommateurs, c'est rare qu'il y ait les personnes qui, je vais vous dire, malheureusement sombrent dedans, parce que ça existe, c'est des personnes, c'est rare, c'est la même chose que quelqu'un qui sombre dans une addiction autre, voilà, c'est pas tout le monde, et très souvent, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais la problématique, c'est pas tant la réalité virtuelle que leur environnement réel. Malheureusement, bah oui, c'est des gens qui sont malheureux et qui n'ont pas d'amis sans la réalité virtuelle et qui se trouvent une communauté dans la réalité virtuelle, qui se trouvent des amis, qui se trouvent, qui peuvent avoir un autre physique, donc ils ne sont pas jugés sur leur physique actuel et qui du coup vivent mieux.
Une bulle enchantée, quoi, un échappatoire, une bulle enchantée.
Un échappatoire, c'est pas forcément, ça vient servir finalement d'aide. Alors, est-ce que c'est la bonne aide? Non. J'aimerais bien que société changée, que ça soit. Mais si on leur enlève ça, souvent il y a des gens qui disent oui, mais voilà. Mais avant, quand il n'y avait pas de technologie, les gens ils étaient juste malheureux tout seuls chez eux. Hein. C'est sauf qu'on ne le savait pas.
Ouais, puis le concept d'être heureux, du bonheur aussi, c'était pas la priorité. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu une priorité. Alors, je sais, quand on est passionné, on voit le positif. Moi, je vais te challenger aussi si tu vois des dérives qui pourraient... Quelles pourraient être les dérives ou quelles peuvent être les dérives vis-à-vis de la réalité virtuelle?
Bon, il y en a plein. J'ai donné une conférence dessus, c'est trop drôle. J'ai l'habitude de donner des conférences super positives. Récemment, j'ai donné une conférence où j'ai exposé la réalité, mais pas la réalité J'adore. Virtuelle, mais la réalité, c'est que oui, il y a des dérives. C'est pas parce que tu peux tout faire qu'il faut tout faire. Déjà, du coup, c'est intéressant. Je vais pouvoir en parler des quelques points. Je vais les aborder assez là, de manière un peu courte. Mais en gros, déjà, il y a, si on rapporte à la sexologie, et à tout le domaine qui nous intéresse, il y a typiquement ce qu'on appelle le grooming, les prédateurs sexuels, etc. Grosse, énorme problématique dans la réalité virtuelle, particulièrement les mondes virtuels, tout simplement parce que tu peux changer ta voix. Tu n'as pas la même apparence, tu joues. Donc, moi, je peux très bien me faire passer pour un enfant ou quelqu'un de plus jeune, ou un homme ou une femme, ou n'importe quoi. Et je vais jouer avec l'autre, etc. Donc, c'est horrible de le dire, mais clairement, c'est un peu... Ouais, ça, c'est une grosse problématique. Donc ça, comment la régler, c'est des choses qu'on réfléchit. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Je pense au CNR, CNXR, qui est une association qui essaye de réfléchir à toutes ces questions-là en France, en Europe, enfin, je veux dire. Donc ça, gros problème, grooming, prédation sexuelle. Je vais prendre un point d'honneur à dire que non, il n'y a pas de viol en réalité virtuelle dans les métaverses, mais oui, il y a des agressions, c'est vrai. Sauf que c'est pas... Enfin voilà, je dis ça, c'est juste pour défendre les victimes de viol, parce que je pense que ça dessert complètement le vécu qu'elles ont eu quand on associe ces choses-là. On associe le virtuel à un crime qui est réel. Par contre, ce qui peut se passer, c'est des triggers. C'est-à-dire, je me retrouve dans un truc et là, paf, je me re-retrouve dans cette situation d'agression et qui me ramène à ce que j'ai vécu dans le passé. Bref.
Et attends, quand tu dis qu'il n'y a pas de viol dans la réalité virtuelle, tu fais... Parce que c'est vrai qu'on entend, enfin, on a entendu ce genre d'histoire, c'est-à-dire imaginons, oui, il y a une personne dans la réalité virtuelle qui vient te voir et qui commence à te toucher, à te caresser, que tu dis stop, elle ne s'arrête pas ou elle continue même à plus. Ça, tu dis que ce n'est pas possible, ça n'existe
Alors,
pas.
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que c'est possible. Alors, c'est possible, mais ce n'est pas la même chose qu'un viol. Enfin, toute personne qui a vécu un viol, je pense, je pense qu'il faut... pas mélanger les termes. Et je vais le résumer comme je vais dire un truc un peu voilà, c'est comme le Covid, une pandémie, c'est pas une guerre, c'est pas la même chose. Il y a des termes pour ça. Donc je pense qu'on peut parler d'agression numérique, ça veut pas dire que c'est pas violent. Hein.
Ok, oui, c'est dans les mots, ok, c'est ça que tu veux dire, je comprends dans le sens, ok.
Bah, les mots sont importants aujourd'hui là-dessus. Par contre, il y a des protections. En fait, il y a... En fait, la personne, tu peux enlever ton casque à tout moment. Tu peux mettre, et ça, c'est déjà le cas hein, dans le truc, tu peux mettre une distance où la personne ne peut pas te toucher, en fait. Elle ne peut pas accéder à ton... Sa main disparaît. Donc, elle ne peut pas te
toucher. C'est dans tes paramètres ?
Dans tous les paramètres. Dans tous les jeux, tu peux faire ça. Tu peux couper les micros des autres. Tu peux les invisibiliser si tu veux. Donc, en fait, il y a plein de moyens de se protéger.
Il y en a plein qui voudraient ça dans la vraie vie.
Un peu Black Mirror. Quand... mais voilà, tu peux faire toutes ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est le premier point qui sont des risques, mais il y a des moyens de se protéger, etc. Ça, c'est surtout sur les jeux en groupe de communauté, hein, où ça peut être là. Mais ça, il faut y faire attention. Ça veut dire qu'il faut faire de l'éducation dessus. Il ne faut pas donner ces informations, etc. C'est la même chose qu'on nous a dit il y a des années quand on se fait sur les chats, etc. Donc ça, c'est le premier point, qui est un risque, qui est un danger, qui est compliqué, qui doit être mené avec de la recherche, qui doit être réfléchi. Et je pense, par exemple, qu'il faut en effet qu'on réfléchisse à, indirectement, des peines ou des amendes ou des choses dans les mondes virtuels. Mais comme, d'ailleurs, je veux dire, la violence qu'on a sur Instagram, quoi. Enfin, moi, je reçois va crever, va brûler, etc. Ouais, j'aimerais bien qu'au moins il y ait une limite, quoi.
Mais c'est vrai qu'en plus, donc en regardant, tu vois, tes vidéos, tes passages, même tes interventions, waouh, les commentaires, faut s'accrocher, quoi. Une telle violence, déjà, c'est pas acceptable. Mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que sur ce sujet-là, ça réveille un tel truc aussi chez les personnes qui hate, quoi.
Ouais, il y a clairement une violence. Après, il y en a, c'est du troll, hein, c'est du fake, c'est des faux comptes. Ça, je l'ai beaucoup vu. C'est parce que je pense que les commentaires négatifs les personnes s'insurgent parfois de ces commentaires, donc ça crée plus de vues, etc. Je pense qu'il y a un petit truc là-dessus. Après, il y a le vrai où il y a des personnes, enfin, moi, je reçois des messages de menaces de mort, etc. Hein, des trucs qui sont parfois clairement étonnants parce que je me dis, enfin, je sais pas, comme si je faisais, j'ai pas l'impression en tout cas de faire quelque chose de si.
Et c'est jamais justifié dans tous les cas. Hein. Il y aurait aucune raison pour de la violence.
Tu as
raison. Il faudrait que ça soit puni et pris en charge, que ce soit déjà dans la réalité, sur les réseaux sociaux et dans la réalité virtuelle, quoi.
Pardon, parce qu'il y a aussi ce truc-là, justement, ça c'est l'autre truc, c'est le fait que tu sois derrière ton écran, finalement t'as moins de tu te sens moins responsable. Donc typiquement, quand tu es dans un groupe, tu vas t'auto-réguler quand tu es en face au niveau de ton discours, de ta violence, etc. Même en réalité virtuelle, alors peut-être avec qui on aura les émotions, peut-être ça sera régulé. Mais là, aujourd'hui, tu ne t'auto-régules pas dans ta manière de parler naturellement quand tu es sur un outil numérique, en fait. Même moi comprise, hein, c'est beaucoup plus difficile. Tu ne parles pas de la même manière. Donc ça, c'est un des risques. Deuxième risque qu'on peut aborder, ça me semble un risque très important, qui est, je vais appeler le risque démocratique, tout simplement. Et aujourd'hui, dans, par exemple, la course au métaverse, qui n'existe pas, moi je t'apprécie aujourd'hui, c'est une connerie. Un truc pour plus tard. Aujourd'hui, il y a des mondes virtuels qui existent depuis des années, d'ailleurs. Mais dans cette course à avoir un leadership là-dessus, il y a une réelle problématique démocratique derrière, parce que du coup, ça veut quand même dire qu'on laisse à des plateformes le soin de juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, des plateformes avec lesquelles on n'a peut-être pas forcément les mêmes valeurs. Mais si c'était la plateforme iranienne qui avait le leadership, bah, tu fais pas la même chose. et en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses comme ça. La question des data, des données, de la manipulation des foules, qui est énorme dans ce milieu-là. Enfin, sur Instagram, t'as une pub tous les deux posts, je crois, un truc comme ça. Tu les vois pas. Parce que Facebook, enfin, Meta, on peut leur accorder quelque chose, c'est qu'ils sont trop forts pour nous donner de la pub sans que ça soit trop intrusif. Ce qui est plus grave que les gros panneaux publicitaires partout. Okay. Mais leur seul objectif, Instagram, Facebook, tout ça, c'est des boîtes de publicité. C'est juste des boîtes de publicité. Et donc, du coup, c'est juste qu'ils ont une plateforme pour te vendre ta publicité. Le panneau, c'est les photos que tu envoies avec tes potes. Et puis, le message, c'est la... Le business model, c'est ça. Et du coup, dans la réalité virtuelle, c'est super simple. Parce que, par exemple, quand Mark Zuckerberg avait fait une intervention, il y avait plein de gens qui disaient « Oh, pourquoi est-ce qu'il y a un pot de barbecue derrière lui ?» Un pot de barbecue. Mais parce qu'en fait, c'est là qu'il a montré comment est-ce que la publicité va se faire dans le métaverse. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver dans ta chambre virtuelle et puis sur ta table de chevet, tu vas avoir un livre avec un texte. Tu vas pas le voir, ça va être une image subliminale. Tu vas avoir
tu vas avoir un sextoy super connu d'une marque derrière toi, des choses comme ça. C'est comme ça que ça va passer.
Comment est-ce qu'on manipule les foules ? Dire oui, je serai capable de m'en rendre compte. Non, c'est pas vrai. Tu ne le seras pas, je le serai pas, personne ne le sera. C'est pas possible. C'est trop rapide, c'est trop voilà.
Puis quand on est pris dedans, de toute façon, on a du mal à dézoomer quoi.
Voilà, on peut pas le faire. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que les algorithmes qu'il y a derrière et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière qui travaille constamment sur tes données, enfin, aujourd'hui, elle te contrôle plus que toi, tu la contrôles. C'est la réalité. Ton Instagram, ton portable, tu n'as rien à faire sur ton portable et tu le prends et qu'est-ce que tu fais ? Tu cliques sur des trucs alors que Mais c'est absurde ce qu'on fait.
C'est ton, c'est ton téléphone qui prend le contrôle
c'est
de toi.
C'est ton téléphone qui t'appelle, qui te dit, t'achètes des trucs, etc. Enfin, c'est normal. Enfin, c'est aussi normal. Les contenus que moi je vois, c'est pas les mêmes que toi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un gros problème démocratique. Je pense qu'il faut réfléchir dessus. Le problème sur la sexualité, c'est plutôt le grooming et tout ce qui est agression. Et je ne me rappelle plus le dernier point, mais c'est pas.
C'est déjà très, très intéressant. Et je voulais revenir avant ma question finale sur... tu parlais des consultations en sexologie dans le monde virtuel. Comment ça se passe concrètement, du coup? Est-ce que c'est des gens que tu rends... Enfin, ils mettent un casque? Enfin, ouais, non. Explique-moi, parce que là, c'est le brouillard.
Ok, alors, j'explique. Boum, comment ça se passe?
Concrètement, je suis une de tes patientes. Comment ça se passe?
Alors, en général, si tu es une de mes patientes et qu'on fait une consultation dans la réalité virtuelle, c'est parce qu'on ne peut pas se voir dans la réalité.
Ok, donc tu es à Barcelone, je suis à Bruxelles, j'ai envie de faire une consultation avec toi, on ne peut pas se voir dans la vraie vie.
Ok, et du coup, tu as un casque de réalité virtuelle et du coup, on peut faire ça ensemble, ok?
Ok, donc nous deux, nous devons avoir un casque de réalité virtuelle. Donc, il faut quand même déjà avoir l'équipement, ok?
Ouais, il faut avoir l'équipement. Donc, ce qui va se passer, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Tu vas avoir des patients qui ne veulent pas faire de visio avant. OK. Tu vas avoir des patients, hein, où j'ai fait des visios avant. Même parfois, je les ai vus en réalité avant. Donc, on se connaît déjà. Il y a quelque chose où on se connaît déjà. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas, qui veulent directement être avec un avatar. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus anonymes. Et dans la sexologie... Il y a quand même ce truc où peut-être que tu veux parler d'un sujet et tu as une honte très forte ou tu as peur au départ et tu ne connais pas l'autre personne, ton thérapeute, etc.
Ok, et attends, je te coupe, je fais vraiment en concret pour vraiment qu'on visualise tout ça, que ce soit très imagé. Donc là, je suis à Bruxelles, tu es à Barcelone, on a tous les deux notre équipement. Moi, je ne me sens pas à l'aise de consulter quelqu'un à Bruxelles ou ni de faire une visio parce que vraiment, j'ai jamais parlé de ça à personne. Et donc, je te consulte et moi, j'utilise un avatar, comme ça au moins, on ne sait pas qui je suis. Et même peut-être que je peux modifier ma voix, c'est ça?
Tu pourrais, ouais, tu peux aussi. Alors du coup, comment ça se passe? Donc tu vas... prendre la consultation avec moi, tu vas la prendre sur mon site d'atelier. Je vais savoir que ça va être de la réalité virtuelle parce que c'est écrit réalité virtuelle, c'est ton mail. Donc, du coup, je vais t'envoyer un message en te disant, bah voilà, mon nom d'utilisateur sur le jeu, c'est ça. Moi, j'utilise la plateforme VRChat ou c'est ma plateforme préférée. Mais je peux utiliser d'autres plateformes, Allspace VR. C'est des mondes virtuels, exactement comme ce qu'on parlait avant. Donc, je vais t'envoyer mon nom, ok? Toi, tu vas m'envoyer ton profil, je vais t'ajouter en tant qu'ami, et puis je vais créer un monde sécurisé. Ce monde sécurisé, personne ne pourra rentrer dedans à part toi et moi, ok?
Ok.
Donc, je vais t'inviter dans le monde, tu vas pouvoir venir, ce monde est sécurisé, personne ne rentre dedans. Ok. Donc là, tu vas, à l'heure de la consultation, enfin un peu avant peut-être, tu vas enfiler ton casque, tu vas rentrer ton pseudo, tu vas rentrer dans ce monde virtuel-là, et puis tu vas... rentrer dans le monde virtuel que j'ai créé pour notre consultation. Et là, ça va se passer exactement comme une consultation normale. C'est-à-dire que là, on va commencer, je vais te poser des questions, on va commencer à échanger. Les choses qui peuvent être cool, c'est que déjà, parfois, en général, les gens qui font de la réalité virtuelle, ils ne choisissent pas leur avatar complètement par hasard. Donc, on peut parler de pourquoi est-ce que tu as choisi cet avatar, comment est-ce que dans cet avatar, ça peut avoir un lien avec la problématique. Moi, je vais pouvoir aussi... Enfin, déjà, on va aussi... Ça va mettre un ton qui est un peu plus sympa et drôle. Parce que des fois, les avatars... Moi, j'ai eu des gens qui avaient des avatars, c'était trop marrant, quoi. Donc, du coup, c'est quand même un truc un peu rigolo. Pour mimer certaines choses ou expliquer certaines choses, je vais pouvoir, moi, changer d'avatar pour te montrer différentes choses. Donc, ça peut être intéressant. Du coup, après la consultation, elle se passe comme une consultation normale. C'est vrai qu'il va manquer les émotions, ça physique. Il y a des trucs qui manquent en tant que thérapeute.
Le langage corporel aussi, comme tu disais, émotions, ça peut manquer.
Le langage corporel, tu vas avoir quelques petits trucs, mais il va te manquer tous les micro-gesteurs. Donc ça, c'est pour ça que moi, je préfère quand même, en fait, je préfère toujours la réalité. Après, ça va être la visio, après la réalité virtuelle. On peut faire un tour dans le monde de la réalité virtuelle. On peut aller se balader, par exemple, ensemble. On peut marcher ensemble. Donc ça va être des choses qui peuvent être intéressantes, qu'on peut faire, ton avatar. Et puis, parfois aussi, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir des personnes qui préfèrent la réalité virtuelle et qui vont, elles, m'inviter dans le monde qu'elles ont créé. Ce qui est différent. Parce que c'est pas moi qui ai créé le monde, c'est leur monde à elles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles se sentent pas très safe, à l'aise dans leur environnement de tous les jours, elles créent des mondes virtuels. C'est super mignon. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est tellement cool. Et elles créent un monde dans lequel elles se sentent bien et dans lequel elles peuvent venir se reposer si elles ne se sentent pas bien dans la vraie vie. Voilà.
Okay. Bon. Intéressant, ouais.
Donc, je vais venir dans leur monde à eux, en fait. Et du coup, ils vont pouvoir avoir cet environnement qui est leur espace à eux, où ils vont se sentir bien. J'ai eu des patients, par exemple, qui changeaient d'avatar en fonction de leurs émotions. Mmh. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce que du coup, il y a leur avatar triste, leur avatar heureux, leur avatar... Donc, ça me permettait de voir aussi leur... Alors ça, c'est pour les gens qui sont créatifs et qui savent faire des avatars, mais du coup, tu te dis, ah ok, donc là, je vois ton avatar triste, qu'est-ce que tu as choisi comme couleur? Qu'est-ce que tu as choisi comme forme, comme etc. Dans ton avatar heureux, est-ce que... Voilà. Donc, ça te donne aussi finalement un accès à leur imaginaire, comme quelqu'un qui dessinerait, en fait. Voilà.
Ouais. C'est trop passionnant. J'ai plein de questions qui me viennent en tête, comme les supports, les tics, les choses comme ça, ce qui est possible de faire. Mais je pense qu'il faut le réserver pour un autre épisode petit bonus, parce qu'il y aurait tellement, en fait, on peut parler pendant des heures, mais je pense que ça intéresserait beaucoup. Mais merci en tout cas d'avoir expliqué. Déjà, c'est une prémisse et tu vois, moi, je suis totalement novice, je n'y connais rien, donc c'était très bien. Et je pense que si j'ai compris, je pense que les autres ont compris aussi, c'est que les personnes qui nous écoutent, en tout cas, voilà, les bases et de manière concrète. Et puis, ma question finale, du coup, si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, quelle est la première chose qui te vient en tête?
En anglais, mais creativity is the ultimate aphrodisiac. La créativité est l'ultime aphrodisiac. Voilà.
Ouais. Voilà. Bah, tout ton métier parle de ça, de la créativité.
Pour moi, c'est ça. Et peut-être un autre truc, c'est devenez des pourquoi pas. Regardez le monde en vous disant « et pourquoi pas ?» au lieu de vous dire « pourquoi ?» et d'avoir peur. Y a rien, c'est pas grave, ça va bien se passer.
Ça rejoint la curiosité, quoi. Cette ouverture sur « pourquoi pas ?» Allez, qu'est-ce que réalité virtuelle ouais, on sait pas, on a peut-être des a priori, mais pourquoi pas au moins essayer de faire son propre avis après.
Mais surtout... Pourquoi pas être sympa avec les autres? Pourquoi pas inviter mon partenaire au resto? Pourquoi pas lui offrir des fleurs? Pourquoi pas... Voilà.
Ok, super. Merci beaucoup, Kathleen.
Merci, Camille.
Je te souhaite de belles aventures dans la réalité virtuelle et on va suivre tout ça avec toutes ces nouvelles technologies et améliorations. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.